Est-ce que je parle en anglais ou en français? Français, ça va? C'est le printemps. En tout cas, selon le calendrier qu'on établit, c'est le printemps depuis, on me dit, lundi. Parce qu'apparemment, c'est normalement le 21, mais ça a changé. C'est toi qui m'as dit ça, Brigitte.
Quelqu'un m'a dit ça, oui. Ah.
Par contre, selon mon médecin, qui est une médecin française, habituelle, normale, mais aussi elle fait de la médecine chinoise. Le printemps a commencé bien longtemps, au mois de février. Je trouve ça toujours très intrigant qu'on met les dates pour ce genre de choses, parce que c'est difficile de savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que c'est fini. En fait, c'est même pas que c'est difficile, c'est que c'est impossible. Et bon, le printemps, on disait, il y a des bourgeons, l'air change, la pluie est même fine, c'est pas la même pluie qu'en hiver. Et puis quand je passais à l'hôtel ici pour mettre le bâton d'encens, j'ai vu qu'il y avait plein de pétales de ces fleurs qui sont tombées. Ce qui ne correspond pas à notre idée, parce que c'est le printemps, parce que bon, ces fleurs. Tout l'hiver, on avait des fleurs là, de toute façon. C'était pas ces fleurs-là, mais il y avait des fleurs. En tout cas, le printemps, notre idée, c'est que c'est de nouveau. C'est la vie, c'est la naissance, la renaissance, tout ça. Et en même temps, dernièrement, je pense, j'ai lu dans un livre que, enfin, quelque chose que j'ai lu dans un livre m'a rappelé qu'un des enseignements de base dans cette tradition, c'est que la personne qu'on appelle le Bouddha à l'origine avait dit, quelqu'un se souvenait qu'il avait dit, parce que lui-même il n'avait jamais rien écrit, qu'il s'agissait simplement de voir the deathless, ce qui est sans mort. En anglais, on a cette formidable possibilité, comme en allemand, je crois, de mettre des mots ensemble. Et cette suffixe, on dit en anglais, suffixe, on dit en français, less, est génial. On peut aussi bien que ness, on peut mettre ness, happiness, fullness, mais on peut aussi mettre less, donc c'est deathless. Bon, en français ça traduit sans mort. Pour moi, bon, le français c'est pas ma langue maternelle, mais ça ne sonne pas de la même façon pour moi sans mort que deathless. Je ne sais pas pour vous et pour les autres. Mais... Et quand j'essaie, comme j'ai lu ça il y a quelque temps dans ce livre, j'essaie dans ma méditation, j'essaie de contempler ce mot. J'essaie de contempler ce mot et qu'est-ce que c'est? Et c'est curieux ce qui se passe. Je l'ai refait là ce soir pendant 40 minutes. Ou je sais pas, c'était 40 minutes en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est comme je n'arrive pas à. Je n'arrive pas à le saisir. Ça m'échappe. Par nature même, cette notion de deathless m'échappe. C'est exactement ce que ça signifie en fait, deathless. Ça ne peut pas être saisi. Dès qu'on a saisi quelque chose, c'est mort. Dès qu'on fixe quelque chose, c'est mort. Ça ne bouge plus. Et donc la nature même de ce mot, je ne sais même pas si je peux appeler ça un concept. Dès que je conceptualise, c'est mort. Donc, ce n'est plus deathless dès que je les conceptualise. Donc, ça me donne une espèce de comment mettre un mot sur ce que ça fait, mais en tout cas, ça fait ce que ça dit. Ça crée un. C'est comme si je contemple ce qui n'a pas de mort et tout est sans mort. Partout où je regarde, quand je fais ça, bon, très vite, je peux me raconter ce qui se passe et ça ne se passe plus, évidemment, quand je commence à me raconter ce qui se passe. Alors, la méditation, en fait, toute méditation peut être ça, dans le sens que on se met là, et on dit d'ailleurs dans un de ces chants qu'on chante, c'est un printemps sans fin. Le printemps sans fin, dans le sens que c'est un printemps, a deathless spring. Dans le sens que ça n'a pas de fin, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Si on essaie de trouver le début du printemps, ben on doit arriver à où? On va arriver à l'hiver, mais pour continuer de trouver le début du printemps, il faut traverser l'hiver, revenir à l'automne et traverser l'automne et revenir à l'été, traverser l'été pour arriver au printemps. Mais pour trouver le début du printemps, il faut recommencer. C'est comme ce truc génial que James Joyce a fait avec Finnegan's Wake. Il a fait la même chose d'une certaine façon avec Ulysse, où il commence son livre au milieu d'une phrase. Et je ne sais pas combien, je crois que c'est 900 pages Finnegan's Wake. Mais c'est. Et c'est. C'est inimaginable comme œuvre, mais comme langage, etc., qu'il a créé. Et quand on arrive à la fin, le livre termine au milieu d'une phrase, mais si on revient au début, ça termine sur le milieu du phrase qui continue au début. Et donc. J'ai dû continuer. Il c'est sans fin. Et ce qui est raconté dans le livre, entre guillemets, c'est ça aussi. C'est un langage qui n'a ni queue ni tête. C'est plein de ce qu'on appelle les mots porte-manteau, c'est ça? C'est ça qu'on dit? C'est ça, hein? On dit ça. Les mots porte-manteau qui c'est les mots qui veulent dire d'autres choses qui sont mis ensemble, qui différents mots mis ensemble, qui peut dire. Est-ce que j'ai un exemple de ça? Non, mais bon, ça me viendra peut-être un exemple. C'était vraiment un maître de cet art, Joyce. Et tout le langage du livre est un mélange de, je ne sais pas combien, je pense que quelqu'un a détecté 90 langues différentes qui sont dans ce livre.
Et tout, qui existent, quoi.
Oui. Et tout ensemble, ça fait une langue qu'il a créée. Il y a d'autres gens qui disent qu'il était psychotique et c'est vraiment un truc de dingue. C'est la folie. Qu'il était devenu fou.
Il l'a écrit après.
Oui. Après. C'était son dernier. Oui. Et. Enfin bref, je raconte tout ça parce que c'est le fait de la phrase qui termine au milieu et. Ça commence au milieu et ça termine au milieu, et c'est la même phrase et ça continue. Ce qui est la même expérience que si le printemps était automne, hiver. Parce que c'est simple. Et it's deathless. C'est sans mort aussi. C'est comme je raconte qu'un jour, pendant une retraite de méditation, je m'ennuyais. Enfin, je ne sais pas si je m'ennuyais exactement, mais je me suis mis dans ma tête, essayer de trouver. Je trouvais ça extraordinaire que j'étais, voilà ici, une Américaine, assise dans une salle de méditation à Paris. Avec mon maître qui était une Française, qui avait étudié avec un maître zen américain aux États-Unis. C'était quand même incroyable cette histoire. Et les circonstances qui m'ont amené de rencontrer cette femme, les circonstances qui nous ont amené tous ici ce soir, Christine et moi, on a découvert des circonstances complètement uniques qui nous ont amené là. Toi et moi aussi, c'était des circonstances complètement extraordinaires. Et donc je me suis passé mes heures de méditation à essayer de trouver retracer tout le chemin qui m'a amené ici maintenant. Alors ça m'a amené, et je raconte que j'ai finalement arrêté quand j'arrivais à le siège de Napoléon de Moscou. Parce que j'en pouvais plus, parce que je me suis rendu compte que c'était impossible de trouver, c'était tellement c'était innombrable les circonstances qui m'ont amené là, et que s'il y avait une chose qui ne s'est pas passée comme ça s'est passé, je ne serai pas là. Mais nous tous, hein. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Non. Donc, quand on réfléchit, on dit « Ah, si j'avais fait d'autre chose. Si d'autre chose s'est passé. » Mais ce n'est pas possible que d'autre chose se passe. Et ça continue. Et ça continue. C'est comme on ne peut pas voir où la plage commence et le mer finisse, ou la nuit et le jour, on va dire X moments quand le soleil se lève, mais c'est toujours mystérieux pour moi comment ils peuvent distinguer ça, à quel moment précis le jour se lève, parce que c'est basé sur quoi, à quel moment Bon, je sais qu'on va dire, ok, on est cliniquement mort. Non, cliniquement mort, c'est différent que véritablement mort. Mais on va dire que, bon, on est mort quand notre cœur ne se bat plus pendant X temps, je crois. Je sais pas exactement. Et même, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire qu'on est au moment quand on sort du ventre de notre mère et on prend notre première respiration. Je ne sais même pas si c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on est. Je ne sais pas.
Je crois que ça dépend des cultures.
Probablement. Et les interprétations des sciences, etc. Mais si on regarde ça aussi, si on veut juste prendre quelque chose comme ça, bah, est-ce que c'est au moment où, je sais qu'il y a des gens qui disent c'est au moment de conception, mais au-delà de cet instant de conception, c'était déjà quelque chose qui était en œuvre dans le corps de la femme, dans le corps de l'homme, dans la relation entre l'homme et la femme, dans les histoires de chacun, etc. etc. Bon, je ne vais pas... Je crois que vous comprenez un peu ce que les implications de ça. Mais les implications sont aussi sur l'existence même. Et c'est pour ça que cette personne qu'on appelle le Bouddha, quand on lui posait une question sur si quelque chose existe ou n'existe pas, il ne répondait pas. Car il ne pouvait pas. Car il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit que de ce qui est ici, maintenant. Pour à travers tout le temps et l'espace, en fait. Et dès qu'on dit quelque chose est, on dit que quelque chose n'autre n'est pas. On crée tout de suite la vie et la mort. Et... Bon, en même temps, il y a vie et mort, on sait. On sait. Quelqu'un qu'on connaît, sa mère est morte dimanche. Ça c'est fait. Mais si on peut observer, contempler ce que c'est la mort, la vie et la mort, pas avec une notion d'extinction, mais plutôt avec cette notion de pas fixe. Pas conceptuel, ça change tout. Si ça peut être expérientiel plutôt que intellectuel, disons, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et quand dans notre méditation, on a la possibilité d'expérimenter ça. Mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'on peut expérimenter ça tout le temps, à tout moment, disons. Il s'agit de simplement, donc à tout moment, on peut expérimenter ça, quand on n'est pas contrainte par nos idées de ce qui est. C'est ça qui nous encombre. On amène une idée ici, on le pose et on ne voit rien d'autre. C'est quelque chose comme ça. L'autre jour, quand je faisais le lessive, encore une fois, au centre de réfugiés, bon, c'est laver, sécher, plier, toute la journée. Hein, et les habits pour les étrangers. Je ne connais pas ces gens. Et les habits sont tous plus ou moins pareils. Et mais à un moment, pourquoi, on ne sait pas. J'avais un polo et soudain, j'avais l'impression que, enfin, j'expérimentais, disons, un peu comme tracé jusqu'à Napoléon, que ce polo, dans ce polo, il y avait la vie de quelqu'un, toute son histoire, tout son trajet, qui était impensable pour moi, inimaginable. Tous les endroits où il était, tout ce qu'il expérimentait, tout ce qu'il a traversé, tous les endroits où il était, les gens qu'il a rencontrés, ce qu'il a mangé. Tout. Ce qu'il a ressenti, etc. était là, dans mes mains. Et c'était une convergence avec ma vie, ce que moi je pensais, ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'avais traversé, où j'étais moi, ce qui m'a amené là, ce que j'avais mangé le matin, tout convergeait à cet instant, dans cet endroit complètement incongru à Porte-la-Chapelle, à cet instant-là, un mardi matin, à 11h. Et ça, c'est impensable. C'est inconcevable. Ce n'est pas un concept, ça. Mais c'est ça. Et c'est ça tout le temps, mais on ne voit pas. Là, nos vies sont séparées des gens là-haut par les murs qu'on a construits. Mais ça, c'est juste des divisions qu'on a créées. Sinon, on est avec eux, hein. Et on est avec les gens à côté, et les gens à côté. On est tous ensemble. Ce qui rend encore plus délirant ce qu'on fait aujourd'hui dans notre monde. Mais c'est un peu comme si on est dans un wagon de train, tous ensemble, coincés, enfermés dans un wagon. On n'est pas enfermés, mais c'est la même idée. On est tous ensemble là. Et on respire le même air, on boit le même eau, on mange la même chose, sauf qu'il y en a qui mangent beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui ont beaucoup plus d'habits que d'autres, il y en a beaucoup plus d'argent que d'autres, etc. Mais, façon, ça le rend encore plus délirant. Et tout ça est deathless, sans mort. Il s'agit de juste respirer, marcher pas après pas, faire ce qu'il y a à faire.
Amy, j'essaye de me rappeler, parce que tout ce que tu dis, ça me renvoie à ce Coran et je l'ai oublié, sur la seamless tomb. Mm-hmm. Tu peux me le rappeler, mm-hmm. s'il te plaît?
Enfin, une partie, parce que c'est très long après, ouais, mais une partie. Oui, il y avait un... c'est une histoire qui vient de Chine dans le 8e siècle, 9e siècle. Un gouverneur ou un notable qui pratiquait le zen, le bouddhisme, a demandé à un grand maître, après que. Et cette notable faisait beaucoup de choses, il construisait des temples, il donnait de l'argent, etc. Et il demandait au maître, après que vous êtes mort, qu'est-ce que je puisse faire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et pour vous, etc. Et le maître a répondu, construisez-moi, comment on traduit seamless encore, seamless tomb, un tombeau sans couture, oui, mais c'est pas vraiment
ce que tu dis, ça me renvoie à ce qu'on...
Voilà. Et le notable avait dit, mais c'est quoi ça? Comment je fais ça? Et le maître a dit, le maître a dit, allez voir mon... Il a resté silencieux un instant. Et il a dit, est-ce que vous comprenez maintenant? Et le notable avait dit, non, je ne comprends pas. Et il a dit, ok, après que je suis mort, allez voir un tel, c'était son disciple qui était un maître aussi, allez le voir, il va vous dire. Et donc après, quand il est mort, il va voir son disciple, et si son disciple raconte un truc très poétique, etc. Mais peu importe, c'est ça que je ne vais pas rentrer dans ça. Ce qui est intéressant dans ça, ce qui te fait penser, c'est cette notion de construire un seamless tomb. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte? Il le dit à seamless tomb, et quand l'autre dit je ne comprends pas, il le manifeste en juste, je crois que c'est mot pour mot, c'est he remained silent for a moment. Il est juste resté là un instant. Donc il l'avait dit, l'autre n'a pas compris, il l'incarnait, il manifestait, l'autre n'a pas compris, donc il a dit, ok, allez voir mon disciple. Et après le disciple lui a raconté les choses. Alors, qu'est-ce que c'est cette seamless tomb? Si on regarde ce qu'il a fait, c'est juste être, c'est une façon de dire, c'est juste être ici avec ce qui est. Bon, c'est très conceptuel de dire ça. Mais si on contemple ça, qu'est-ce que c'est ici, maintenant? Qu'est-ce que c'est? Alors là, on va arriver, si on le contemple, et on va jusqu'au fond de ce questionnement, on va arriver à ce que c'est. Et ce ne sera pas ce qu'on pense que c'est. On va arriver à ce... seamless, deathless. Seamless implique qu'il n'y a rien dedans et rien dehors, que c'est un seul tenant, un habit qui n'a pas de couture, un seul tenant. Et si on vit le vie comme ça, sans séparation, sans division, sans construire des murs, avec les frontières, et juger les gens et dire toi tu peux rentrer, toi tu peux pas, etc. C'est pas du tout seamless, ça. Ça, c'est pas du tout. On voit que ça crée tellement de problèmes. En même temps, on se dit, ok, mais il y a quand même des différences. Il y a des montagnes, il y a les vallées, il y a les rivières, il y a les lacs, il y a des différences quand même. Mais c'est vrai. Alors, aborder ça comme étant seamless implique que on ne va pas distinguer avec un jugement de valeur. On ne va pas dire que les montagnes sont meilleures que les vallées. Elles sont plus hautes, mais ce n'est pas que c'est meilleur. C'est là où c'est seamless, où ça n'a pas de couture. Ils ne sont pas séparés d'une façon valeur, jugement. Et il y a cette phrase que je cite tout le temps, cet vers de Leonard Cohen qui est « There's a crack in everything ». Donc tout, d'une certaine façon, il y a « seams ». There's a crack in everything. C'est comme ça que la lumière rentre. Et si on voit ça, on voit qu'il n'y a pas de there is no crack. Because the light comes in, there's no crack. C'est seamless, it's whole. C'est entier. Et peut-être aussi quand on voit que les choses sont, que c'est sans couture, sans mort. Leonard Cohen, c'est un bon exemple, parce qu'il semblerait qu'il avait, il était tellement en contact avec ça qu'il avait abordé sa vie comme ça, et il avait respecté le trajet de sa vie. On avait l'impression qu'il est parti, entre guillemets, mourir au moment où il était en phase entièrement avec que c'était le moment. Que c'était le moment de partir. On a cette impression. Bon, beaucoup de projections et fantasmes là-dessus. Mais ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, laissait entendre ça. Bien que l'on dit qu'il est tombé et comme ça, c'est comme ça qu'il est mort. Mais. Il avait fait son dernier disque, tout ce qui l'entourait donnait cette impression. Et ce n'est pas du tout les choses conscientes qu'on peut penser. Ce n'est pas qu'il s'est suicidé ou qu'il a planifié sa mort, hein, ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt quelque chose de on dirait dans la psychanalyse, inconscient, mais c'est souterrain. Où c'est archaïque. Quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très archaïque. Les sons que qui émanaient de moi, la façon que j'ai vécu ça, c'était archaïque. C'était quelque chose qui était non moi, qui n'était pas moi, hein, d'une certaine façon. Et en tant qu'être humain, on est capable d'une incroyable orgueil et arrogance de penser qu'on peut maîtriser tout ça. Et on manque cruellement d'humilité. Qui nous empêche d'expérimenter, comme je disais, je crois que c'était la semaine dernière, la semaine avant, je parlais du sublime. Ça nous empêche d'expérimenter le sublime de l'univers, de la beauté, le mystère et la beauté de tout ça. Des pétales qui tombent, mais aussi des bourgeons, enfin, le tout. Le tout. Bon. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que moi j'ai dit ce que j'avais à dire.
21h18.
Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses à ajouter?
ça existe le mot lifeless.
Mm-hmm. Lifeless.
Alors, c'est différent de death.
Oui, lifeless peut être quelque chose qui est inerte, qui est. C'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire mort, mais mm-hmm. ça peut être.
Inanimé, ça serait oui. Inanimé.
Sans vie.
Quoi ?
Sans vie.
Inanimé, je crois.
Oui, oui.
Parce que sans vie et sans, même sans mort, ça ne se dit pas tellement en français. Hein.
Non. Il me semble. Non, je sais, ouais, je traduis ouais. parce que c'est... il y a peut-être non. une autre traduction qui pouvait être mieux, hein. Je ne sais pas.
Mais sans vie, ça se dit.
Oui, on dirait que quelqu'un était sans vie.
Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort.
Mm-hmm. Ouais. Non. Mm-hmm. C'est vrai.
Oui.
C'est vrai. Ouais. Et sans mort. Ça se dit pas. C'est vrai, ça se dit pas. Bah, deathless en anglais non plus, vraiment. Mm-hmm. Pas vraiment. Hein. Par contre, on a, comme j'ai dit, c'est, on a cette heureuse possibilité en anglais de créer le mot et c'est ok. Hein, on, mm-hmm. En français, on a plus de difficultés à faire ça. Et en allemand, on peut faire ça, non? Créer des mots, on peut créer des mots en allemand.
Je suis pas très douée, hein, ah ouais. concernant l'allemand.
Je sais pas. J'ai compris que c'était sens possible sens. De mettre des choses ensemble. Oui, donc lifeless, oui, ça existe. Il y a quelque chose de très, je ne sais pas, mon association quand je pense à lifeless, est-ce que ça peut être d'autres choses, etc. Je pense tout de suite à Donald Trump et sa vie et ce qu'il a autour de lui et ses maisons. Et, c'est un peu lifeless, enfin, je veux dire, c'est... Dans le sens, c'est, techniquement, c'est pas ça.
Dans le sens vidé de substance, non, c'est ce que j'entends.
Enfin, dans le sens que oui, c'est. Que c'est beaucoup basé sur l'image. Et ces décors avec beaucoup d'or et.
Perruque.
Quoi
perruque.
C'est pas une perruque. Hein.
C'est pas une perruque. Comme tu en avais déjà parlé.
Ouais, ouais, c'est vrai, mais ce n'est pas une perruque. Ou le fait que sa cravate est tenue par du scotch, tu vois, c'est quelque chose de factice, disons.
Est-ce tenue par du scotch
oui.
Mmh. Derrière.
Ouais,
c'est ce que je
derrière. Bah, vous avez pas vu ces photos de sa cravate? C'est fascinant comme truc. Des cravates. Non, je ne connais pas très bien les cravates, mais il y a derrière les cravates, bon, c'est comme ça. Et derrière, il y a un petit machin où on met la partie plus courte dedans. Mmh. Voilà. Et ils sont calculés, ils sont faits d'une façon pour que ça, ça tient, voilà, comme ça. Mais lui, il fait ses cravates d'une façon pour que une partie est très longue, la partie comme ça est très longue. Bon, on peut interpréter ça comme on veut, hein, mais et tout le monde l'interprète comme ça. Mais il le fait très longue, ce qui fait que l'autre partie est trop courte.
Pour aller dans le... Oui.
Ça rentre, mais de justesse. Mm-hmm. Et... Ça a tendance à s'enlever et s'envoler. Et donc, il met du scotch. Et on voit des photos, quand, par exemple, quand il y a du vent et la cravate fait comme ça, et on voit les bouts de scotch aussi récemment que la semaine dernière. Enfin, je veux dire, c'est ongoing. C'est
il pas, a pas les moyens de se faire un truc sur mesure.
Bah, on se dit, mais c'est incroyable quand même. Et il est tourné en dérision constamment par ça, et il continue de le faire. Mais non, peu importe. Je dis, ça c'est juste emblématique de ce truc factice qui est basé sur une image.
Elles sont toujours rouges ou pas? Moi, j'ai...
Souvent. Hein. Plus ou moins, oui, souvent. Oui, souvent, hein. Souvent, souvent.
Rouge.
Souvent. Ouais. Souvent. Bon, c'est son uniforme. Bon, on a tous nos uniformes. Hein. La cravate rouge et le costume bleu, etc. C'est son uniforme.
Tu connais la couleur de ses chaussettes?
Comment?
Connais-tu la couleur de ses
non.
chaussettes?
Non, j'ai aucune idée. François Fillon, c'est rouge souvent. Hein.
Oui.
C'est ce qu'on a dit. Et il achète du même fabricant que le Vatican. Les chaussettes.
Qu'au Vatican? Que les chaussettes du Vatican?
Oui. Le même fournisseur du Vatican fournit François Fillon avec ses chaussettes rouges. J'ai lu ça. Je ne l'ai pas vu. Et... j'ai lu ça au moment quand tu parlais de ses costumes, tu vois. C'est... Bon. Oui, c'est un peu lifeless comme les nains de jardin. Enfin, bon, les nains de jardin, on peut donner vie à ça. Hein. Je parle de quelque chose d'extrême. On peut donner vie à ça. Je sais pas, Amélie Poulain, il y avait ce nain de jardin qui a fait le tour du monde, hein, mais quand mon fils était petit, il était terrifié des nains de jardin. Terrifié. Et je comprends, c'était terrifiant. Surtout, il y en avait un, on était en vacances quelque part, il y avait un Daffy Duck. On a loué une maison et la maison d'à côté, il a fallu qu'on passe devant, il y avait un Daffy Duck, nain de jardin. Il était terrifié, mon fils. Il voulait pas passer.
C'est le canard quoi?
C'est le.
Personnage de bébé.
Oui, le dessin animé.
Le Daffy Duck, Disney.
Voilà, c'est ça. Bon.
Ça lui ferait plaisir, je pense, à Donald Trump, si. On entendait qu'on pouvait le comparer d'une certaine façon à un nain de jardin. Il y a nain déjà, et ensuite.
Oui, je sais pas. Bon. Apparemment, oui. Bon. Je pense que c'est d'autres choses qui les vexent que ça.
Ah,
je sais pas. Mais bon, le nain peut-être, oui.
Ouais.
Bon. Bah, merci. Et...